السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، nous poursuivons l'étude des paraboles du Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous entamons la quatrième parabole lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Sourate Al-Baqarah:
وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، et l'exemple des mécréants, كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً, ressemble à du bétail auquel on crie et qui entend seulement appel et voix confus. Sourd, muet, aveugle, il ne résonne point. Je répète, ici, on nous mentionne en parabole des gens qui ont mécru face à l'appel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et des nobles conseillers. Leur image face à cet appel est semblable à du bétail lorsque le berger crie au loin et où les appelle. Ils ne distinguent pas ce qu'il dit, ils ne comprennent pas ce qu'il dit. Ils entendent seulement du bruit. Ils sont sourds, muets et aveugles, ils ne raisonnent point. Voici la première parabole que nous allons ici étudier, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala.
Donc je reprends. Cet exemple comprend une comparaison entre deux choses. La première, ar-ra'i, le berger. Et la deuxième, ad-dawab, les bestiaux. Et l'objet de comparaison, ce à quoi on fait ressembler ce point-là, c'est l'appel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de tous les nobles conseillers. Et ceux qui sont appelés, ce sont ceux qui n'ont pas cru et n'ont pas répondu à l'appel du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et pour situer le contexte, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que lorsqu'on dit à ces gens-là, suivez ce qu'Allah a révélé, ils répondent non, nous allons plutôt suivre ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Nous allons plutôt suivre ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Alors on les blâme, même si leurs ancêtres ne raisonnaient pas et qu'ils n'étaient pas guidés. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Allah Azza wa Jalla les blâme. On les invite à suivre ce avec quoi leur est venu le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, comme guidé, comme lumière. Et eux disent non, nous allons suivre aveuglément la voie de nos ancêtres. Comment cela est-ce possible? Même si leurs ancêtres ne raisonnaient pas et ils n'étaient pas guidés. Puis Allah Azza wa Jalla dit: وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Il ressemble à du bétail auquel on crie et qui entend seulement des sons. Ils sont sourds, muets, aveugles et ils ne raisonnent pas. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les invite à la vérité. Ici, les nobles conseillers les invitent à revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, à son unicité à la soumission à ses ordres. Mais eux préfèrent choisir. Eux font le choix du suivi aveugle. Le suivi aveugle des anciens qui n'étaient pas guidés. Donc, l'exemple de toute personne qui n'écoute pas le rappel, qui n'écoute pas le prêche de l'islam, qui n'écoute pas l'appel à la foi, est semblable aux bestiaux, qui, lorsque le berger leur crie dessus pour les orienter ou les blâmer, ils n'entendent que des sons, mais ne distinguent pas le contenu. Ils n'entendent que des sons. Mais ce son-là, lorsqu'il s'agit de ceux qui n'ont pas cru, est suffisant pour qu'ils n'aient plus d'excuses chez Allah le jour dernier. Ils ont reçu le message, ils ont reçu l'avertissement, mais sciemment ils ont choisi de s'éloigner de la voie d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ils entendent, mais ils n'en tirent pas profit. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Au contraire, comme Allah a dit à la fin du verset, « Summun », ils n'entendent pas la vérité. Ils n'entendent pas de sorte à tirer profit de ce qu'ils ont entendu, une écoute de laquelle découle la soumission et la mise en pratique. « Umyun », ils sont aveugles. Ils ne regardent pas de sorte à tirer profit, à observer, à tirer des leçons. Non, avec toutes les preuves, avec tous les signes manifestes, ils n'ont pas tiré profit de leur vue. Bokumun, ils sont muets. Ils ne mentionnent pas la vérité. Ils ne disent pas ce qui va leur apporter du bien. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a donc fait ressembler le manque de compréhension des animaux, des bestiaux, et le fait qu'ils ne tirent pas profit du contenu des paroles du berger à toute personne qui a mécru, et lorsque le message de l'islam lui parvient, il l'entend, mais il n'en tire pas profit. Il ne le comprend pas, ça ne pénètre pas son cœur, ça ne fait pas naître la foi ni la soumission. Quelle est la cause? La cause, c'est la maladie du cœur. C'est la corruption du cœur. La cause, c'est l'égarement. La cause, c'est l'ignorance. La cause, c'est le fait de ne pas choisir ce qui nous est bénéfique pour obtenir le salut chez Allah subhanahu wa ta'ala. On leur ordonne ce dans quoi il y a le bien pour eux, le salut, le paradis, le pardon d'Allah, mais ils s'en détournent. Ils n'acceptent pas la vérité des gens de bien. Ils n'acceptent pas la vérité des gens du bien. Mais après avoir entendu le rappel, ils préfèrent choisir le chemin du feu alors qu'ils sont clairvoyants, qu'Allah nous en préserve. Il fut également dit que cette parabole a pour but de mettre en évidence les invocations des polythéistes lorsqu'ils invoquent leur statue et leur fausse divinité. Lorsqu'ils invoquent leur statue et leur fausse divinité, ces fausses divinités, ces statues n'en comprennent rien. Et eux, de leur côté, ils ne tirent aucunement profit de cet appel. Ils ne tirent aucunement profit de ces invocations. Ils ne font que se fatiguer à crier. Tout comme le berger, lorsqu'il crie sur les bestiaux, ils n'en comprennent rien. Ils ne comprennent rien à ce qu'il dit. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Sourate Fatir, « In tad'uuhum la yasma'u du'a'akum, walau sami'u mastajabu lakum. » Si vous les invoquer, ils n'entendent pas vos invocations. Et s'ils avaient entendu, ils n'auraient pu vous répondre. On voit ici l'avilissement et le manque de considération de toute personne se détournant de la vérité après l'avoir entendue. Et ici, il y a également un avertissement aux musulmans pour leur dire « Faites attention, faites attention et ne suivez pas le chemin de ceux qui ne se sont pas soumis après avoir entendu la vérité aux ordres d'Allah et de son messager. Sinon, vous allez avoir une ressemblance avec ces gens-là, qu'Allah nous en préserve. » Donc on fait attention lorsqu'on entend le rappel, lorsqu'une personne vient nous conseiller, lorsqu'une personne vient nous dire un verset ou un hadith, on fait attention de ne pas polémiquer. On fait attention de ne pas rejeter cette vérité. On fait attention de ne pas avoir simplement entendu, mais pas écouté. Car ça, c'est la parabole qu'on nous mentionne ici. Et à quoi est-ce qu'on a fait ressembler ces gens-là? Aux bestiaux sur lesquels on crie, mais ils n'en distinguent rien. Naam. Et on a mentionné que parmi les utilités et les sagesses des paraboles, c'est nous éloigner de mauvaises œuvres et de mauvais comportements. En voici un exemple. Passons à la cinquième parabole, qui est une parabole relative au fait de dépenser dans le chemin d'Allah, au fait de dépenser dans le sentier d'Allah, le Très-Haut. Donc sur As-Sadaqat. Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans sourate Al-Baqarah, nous dit: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابيل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent sept épis. À 100 grains, l'épi. Et Allah multiplie la récompense à qui il veut. Et Allah est immense et omniscient. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah sont semblables à un grain. De ce grain-là est né sept épis. Chacun de ces épis contient 100 grains. Et Allah multiplie la récompense à qui il veut. Et Allah est immense et omniscient. Allah est immense et omniscient. Voici une belle parabole contenant un encouragement au fait de dépenser pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, Allah encourage ses serviteurs à dépenser. Et très nombreuses sont les méthodes utilisées dans le Coran pour pousser les croyants à dépenser fi sabilillah. Et une des méthodes est darbul amthal, la mention des paraboles. Et lorsqu'on nous dit l'exemple de celui qui dépense ses biens dans le sentier d'Allah, le sentier d'Allah, ça englobe toutes les bonnes œuvres, tout ce qu'Allah aime et agrée. Tout ce qui contient l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça peut être pour nourrir un pauvre. Ça peut être pour nourrir un jeûneur. Ça peut être pour financer les études d'une personne ou son apprentissage. Ça peut être pour payer les dettes d'un endetté. Ça peut être pour soigner un malade. Ça peut être pour prendre en charge un pauvre, un orphelin, un étudiant en sciences. Ça peut être pour prendre en charge une veuve, et ainsi de suite. Tout ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, en commençant par le fait de dépenser pour ses parents, sa femme, ses enfants, ses tantes, ses oncles, et ainsi de suite. Quel est l'exemple de celui qui dépense dans le sentier d'Allah? Quel est l'exemple de celui qui dépense dans le sentier d'Allah? C'est l'exemple d'un grain. C'est l'exemple d'un grain qui a été planté, qui a été jeté dans la terre, qui a été mis dans la terre. Ce grain-là, sans aucun effort, uniquement par la grâce d'Allah Azza wa Jal, a fait pousser sept épis. A fait pousser sept épis.
visualiser par exemple un maïs. C'est pas propre au maïs, mais visualiser par exemple un maïs. D'un grain est sorti une pousse contenant sept épis. Chacun de ces épis comporte 100 grains. Il a mis un, il a gagné. Il ressort avec combien? 700. Allahu Akbar. Il a mis un, il repart avec 700. Ici, on rapproche à notre esprit la multiplication des récompenses avec cette parabole. On ne nous dit pas directement, tu donnes un, tu gagnes 700. Mais on veut rapprocher à notre esprit une chose qu'on va visualiser comme si on l'avait devant nous et comme si on avait vu l'acheminement du grain aux 7 épis, aux 700 grains. Naam, on veut nous amener à cette réflexion, à cette visualisation, afin que cette image renforce notre foi, apaise notre cœur face aux dépenses pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en visualisant cette image, immédiatement t'as envie de donner pour Allah. Immédiatement ta foi se renforce. Pourquoi? Parce que tu convoites et tu espères la récompense du riche, du généreux, du grand donateur. Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme l'a dit Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, cet exemple, cette parabole est beaucoup plus parlante que si on avait dit, en donnant un, tu vas gagner 700. Car on voit ici que c'est une bonne action et que la bonne action, Allah azza wa jal, l'a développée, l'a fait grandir pour son adepte. Tout comme lorsque le cultivateur met et plante la graine, naam, sur la bonne terre, eh ben, elle se développe et elle grandit. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit cette parabole est une des images les plus éclatantes, les plus éloquentes qui soient. Parce que la chose qui était conceptuelle est devenue concrète et dessinée avec des sens, naam, que le cœur qui a la foi et le Coran témoigne. Sa foi se renforce. Sa foi se renforce. Alors, celui qui dépense pour Allah a le cœur apaisé pour cette bonne action. Et subhanallah, quel pluriel a été utilisé pour épi? Pour ceux qui étudient la langue arabe, ils savent qu'il y a un jama', un pluriel qu'on appelle qilla, il y a un pluriel qu'on appelle kathra. Il y a un pluriel qui indique la pluralité de la chose, mais pas en abondance avec un grand nombre. Et il y a un autre pluriel qui indique la pluralité de la chose, mais avec de grands nombres, de grands chiffres. Eh bien, sachez que Sanaabil, c'est le pluriel de Sumbula. Sanaabil, ce sont des épis au pluriel. Et ce pluriel-là fait partie de Jumu'ul Kathra. Fait partie des pluriels, naam, qui indiquent qu'il y en a beaucoup. Parce que 3, ça peut être le pluriel. 4, ça peut être le pluriel. 5, ça peut être le pluriel. N'est-ce pas? Mais est-ce que 5, c'est comme 500? Non. Alors Allah Azzawajal a mentionné un pluriel qui en soi est un pluriel qui mentionne un grand nombre. Pourquoi? Parce que ici, le contexte, c'est d'exposer qu'il aura beaucoup à gagner. C'est la multiplication, c'est la multitude de gains. Et si vous voulez une comparaison, revenez à Sourate Youssouf. Revenez à Sourate Youssouf. Le même mot a été mis au pluriel. Mais un jama' qilla, lorsque la personne est venue mentionner son rêve à Yusuf alayhi salam de la part du roi et qu'il en a fait l'interprétation, naam, il a dit quoi? Il a utilisé le mot sumbulatin khudr. On nous raconte cela en utilisant le mot sumbulatin khudri wa ukhara yabisat. On nous dit 7 épis verts et d'autres seront asséchés. Naam. Du fait qu'il s'agit d'un pluriel qui n'indique pas un grand chiffre, on a choisi ce pluriel-là. On a choisi ce pluriel-là. Et ça fait partie de la perfection, de l'éloquence qu'on trouve dans le Coran. Ainsi, on voit ô combien on est dans le besoin d'étudier la langue arabe pour pouvoir percevoir les secrets, l'essence sublime que renferme le Coran. Que renferme le Coran. Ajoutez à cela que ce message s'adresse à qui? Il s'adresse à une population qui vit à Médine. Et à Médine, quelle était leur activité principale? C'était la culture, c'était l'agriculture, c'était les palmiers. Donc ils comprennent cette parabole. Ça leur est extrêmement parlant. Naam. Aussi, le bénéfice, c'est un terme qui parle à tout le monde, et particulièrement aux commerçants. Et les gens de Mecca qui ont fait l'hégire, quelle était leur activité principale? C'était le commerce. Ainsi, on a uni entre ces deux choses-là. Ce qui sort de la terre et ce qui est la convoitise du commerçant. Naam, la convoitise du commerçant. Et c'est pour cela qu'en ayant pleinement visualisé cela, les sahaba radiallahu anhum se sont dirigés pleinement vers le commerce avec Allah. Ils ont fait du commerce avec Allah. Certains parmi les commerçants pensent que le commerce de dunya forcément doit détourner du commerce avec Allah. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être riche sans être négligent dans sa religiosité, dans sa religion. Et ceci, wallahi, c'est une mauvaise conception des causes de richesse. Allah subhanahu wa ta'ala c'est al-Razzaq. Allah subhanahu wa ta'ala c'est khayr al-Raziqi. C'est Allah le pourvoyeur. C'est Allah le meilleur des pourvoyeurs. Et il n'a pas permis l'enrichissement dans sa désobéissance. Il n'a pas permis l'enrichissement dans sa désobéissance. Et par la grâce d'Allah, il y a beaucoup de gens qui sont richissimes. Ils ont peut-être actuellement plus d'argent qu'on n'en aura jamais à la fin de notre vie si on réunissait chacun des membres de notre famille. Mais pourtant, ce sont des gens qui préservent leur prière à la mosquée. Pourtant, ce sont des gens qui, chaque année, vont à la Umrah, peut-être plus d'une fois. Pourtant, ce sont des gens qui lient les liens de parenté. Ce sont des gens qui sont généreux. Ce sont des gens qui posent les questions avant d'entreprendre quoi que ce soit de peur que le haram se mêle à leur argent. Et si on revient à l'époque des compagnons, Othman ibn Affan était richissime. Omar ibn Khattab avait des biens. Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhum, était richissime. Et d'autres parmi les compagnons. Mais est-ce que cela les a éloignés d'Allah? Au contraire, ils savaient qui leur donnait cela. Et ils savaient qu'en accourant vers Allah, leur subsistance était garantie. Leur subsistance était garantie. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait peur de sa désobéissance, mais ne nous a jamais fait peur de la pauvreté. C'est le shaitan qui nous fait peur de la pauvreté. C'est le shaitan qui nous fait peur de la pauvreté. Particulièrement lorsque l'homme se marie à des enfants. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, majban, mabkhala. C'est une cause pour être moins courageux et c'est une cause pour être plus avare. Parce que quand tu veux faire ta sadaqa, tu commences à penser, oui mais peut-être que mes enfants, oui mais plus tard, oui mais le futur, et ainsi de suite. Non, c'est Allah azza wa jal qui donne. C'est Allah qui donne avec largesse. Et plus tu donnes, plus Allah subhanahu wa ta'ala bénit tes biens et t'ajoute. Et regarde le comportement de Talha ou de Abu Talha radiallahu anhu. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a révélé, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ لَن تَنَالَ الْبِرَّ. Vous n'atteindrez, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ, vous n'atteindrez l'excellence ou la bonté, حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ, tant que vous ne dépenserez pas de ce que vous aimez. Quand Abu Talha radiallahu anhu a entendu ce verset, il est parti voir le prophète alayhi salatu wassalam. Et il lui a dit, Ya Rasulallah, Allah a révélé dans le Coran, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Vous n'atteindrez jamais la bonté jusqu'à ce que vous dépensiez de ce que vous aimez. Et moi, la richesse que j'aime le plus, c'est Bayrouha. C'est un jardin qu'il avait en face de la mosquée du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui contenait énormément de palmiers et un point d'eau, et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam y entrait parfois. C'était une grande richesse. Vous savez ce qu'il a dit? Allah Azza wa Jalla a dit ça dans le Coran? Eh ben, moi, je la donne en sadaqa. Allahu Akbar. Un verset qui a pénétré son cœur, transpercé son cœur. La foi a débordé. Les œuvres se sont mises à pleuvoir. Allahu Akbar. Il a donné pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donné pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand les muhajiroun sont arrivés à Médine, les Ansar les ont accueillis et ils ont dépensé pour eux. Abdurrahman ibn Auf est arrivé, spolié de ses biens. Et son frère parmi les Ansar à Médine lui dit, je suis un des plus riches chez les Ansar, je divise mon argent en deux, je te donne la moitié. Allahu Akbar. Il répond qu'Allah bénisse dans tes biens, dans ta famille, montre-moi le marché. Il est parti, il a fait du commerce, est devenu un des plus riches de Médine. Un des plus riches de Médine. Il était pauvre. Puis le roi Salem le croise avec des traces de parfum sur lui, il lui dit que t'arrives, lui, je viens de me marier. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla l'a enrichi. Il s'est marié. Hein? L'obéissance d'Allah Azza wa Jalla n'appauvrit pas. L'obéissance, la soumission à Allah n'appauvrit pas. Ô toi qui travailles dans le haram, ô toi dont les biens sont mélangés au haram, toi qui travailles et tu touches à l'alcool, tu touches au porc, tu touches à la vente, à viande qui n'est pas halal, ou bien tu touches aux stupéfiants, tu touches à la drogue, et tu as peur de laisser ce chemin-là, parce que tu penses que ça va t'appauvrir et que tu ne pourras plus avoir une qualité de vie et ne plus pouvoir te faire plaisir dans ce bas monde. Crains Allah subhanahu wa ta'ala et sache que c'est Allah le donateur. Et tout comme tu as reçu dans le chemin du haram, qu'Allah n'aime pas, sache que si tu délaisses ce chemin, tu te repens, tu demandes pardon à Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal va te donner, d'où tu ne t'y attendais pas, parce que c'est la promesse d'Allah, et Allah ne manque pas à sa promesse. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et quiconque craint Allah, il lui facilitera une issue. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Il lui donnera sa subsistance d'où il ne s'y attendait pas. D'où il ne s'y attendait pas. Combien de gens se sont repentis en pensant devenir pauvres? Allah Azza wa Jal leur a donné la richesse du cœur, puis la richesse pécuniaire. Ils n'ont rien perdu. Ils se sont purifiés corps et âme. Ils se sont purifiés dans leurs mains, dans leurs poches. Ils ne ramènent plus du feu dans le ventre de leur famille, mais il leur donne du halal au quotidien. Au quotidien. Les femmes chez les pieux prédécesseurs étaient la cause que leur mari s'éloigne du haram. Beaucoup sont dans le haram parce qu'ils ont peur de ne pas honorer la femme ou bien qu'elle ne les considère plus. Wallahi, la femme qui te considère à cause de ton argent haram n'est pas une femme digne d'être épouse. Les femmes chez les pieux prédécesseurs à la porte disaient au mari, Ittaqillah fina. Elle est à la porte avec son enfant, visualisez cette image. Et elle lui dit, crains Allah envers nous. Car on peut patienter sur la faim, mais on ne peut pas patienter sur le feu. C'est-à-dire, travaille que dans le halal. C'est pas grave s'il y a peu. On peut patienter sur la faim. Mais ramène pas d'argent haram. Parce que ça ramène en enfer. Ça ramène en enfer. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, toute personne qui a grandi en se nourrissant de haram, le feu est plus à même d'accueillir son corps. A'oudhu billah. Donc on fait attention. Ikhwat al-Iman. Le vrai commerce, c'est le commerce avec Allah. Le vrai commerce, c'est le commerce dans le halal. Le vrai commerce, c'est le commerce où tu es en accord avec ta personne, tes principes, ta religion. Naam. Et certains ont pris de mauvaises habitudes. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour revenir vers Allah. Et qui pourrait se mettre entre toi et ton retour vers Allah? Tout de suite, repens-toi. Tout de suite, abandonne le haram. Tout de suite, reviens vers Allah. Et quel meilleur mois que le mois de Ramadan pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Quel meilleur mois! Certains parmi les pieux prédécesseurs avaient énormément de biens. Les gens venaient leur acheter. Et ils lui proposaient le double du prix. Ils disaient non. Le triple du prix. Ils disaient non. 9 fois le prix, il disait non, j'ai trouvé qui va me donner encore plus. On lui disait qui? On est les plus riches du coin, qui peut t'acheter plus? Qui peut te proposer meilleur bénéfice? Vous savez ce qu'il répondait? Il répondait Allah. Allahu Akbar. Allah m'a promis 700 fois. Allah m'a promis 700 fois. Et ensuite, ils allaient donner aux pauvres. Ensuite, ils allaient donner aux gens dans le besoin. Ils faisaient le commerce avec Allah. Une partie, ils faisaient du bénéfice dans Dunya. Une autre partie, ils l'utilisaient pour faire le commerce avec Allah. Allah appelait le commerce avec lui Tijara Lentabur. Un commerce inépuisable, qui ne périt jamais. C'est du bénéfice garanti. Celui qui te paye, c'est Allah. Celui qui scelle le contrat, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Accourons à un commerce avec Allah. Accourons à un commerce avec Allah. Tu donnes un, tu gagnes 700 fois. Tu donnes un, tu gagnes 700 fois. Hein? Et on a vu la générosité des croyants dans ce mois pour nourrir les jeûneurs, pour nourrir les pauvres. Certaines personnes, on attendait d'eux une centaine d'euros. Certains ont donné 900, certains ont donné 100, certains ont donné 180, certains même ont donné 1000 pour nourrir des pauvres et des jeûneurs. À tous ceux-là, on annonce la bonne nouvelle de ce verset. Pour un, Allah Azzawajal leur donne 700. Pour un, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne 700. Barakallahu fikum. Et les exemples au temps du prophète alayhi salat wa salam sont très nombreux. Cherchez l'histoire de Abu Dahdah. Cherchez l'histoire de Abu Dahdah et de son jardin qu'il a donné pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lisez ce hadith bouleversant. Cette parabole nous encourage, ikhwat al-iman, à donner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne sait pas quand la mort va venir. On ne sait pas quand la mort va venir, ikhwat al-iman. Il faut donner alors que tu es en santé. Il faut donner alors que tu es vivant. Il faut donner alors que tu es dans la force de l'âge. N'attends pas que tes héritiers se partagent ton argent. Allah subhanahu wa ta'ala finit cette parabole en disant « Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. » Et Allah multiplie à qui il veut. Il multiplie la récompense à qui il veut. Combien est-ce qu'on nous a cité ici? On nous a cité pour un, 700. D'accord? Eh bien, Allah Azzawajal multiplie la récompense à qui il veut, en fonction de la personne qui a fait ça, de son état du cœur, de sa sincérité, de sa véracité. Aussi en fonction de sa situation. Hein? Celui qui a donné 50 alors qu'il possède 100, il n'est pas comme celui qui a donné 50 alors qu'il possède 500 000. Non, c'est aussi en fonction du besoin des gens. Celui qui a donné à un moment où, s'il ne donnait pas, les conséquences étaient dramatiques. Comme Khadija radiallahu anha, qui a donné au prophète alayhi salat wa salam, au moment où il n'était soutenu que de peu de personnes. Abu Bakr radiallahu anhu, qui a donné au prophète alayhi salat wa salam, n'est pas comme ceux qui ont donné après. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Et remarquez ici, qui est-ce qui va lui donner? Qui est-ce qui va... Naam. Comme chez nous, ils ont une expression. Hein? Chez nous, il y a une expression. J'ai souvent entendu ma tante Hafid Allah Ta'ala le dire. C'est Allah qui va te payer. C'est Allah qui va te payer. Et bien là, on a ce sens-là. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah, c'est Allah. Quand on te cite celui qui va te donner ton salaire, celui qui va te donner le bénéfice, et on te dit c'est le riche, le généreux. Qu'est-ce que ça suscite en toi? La convoitise, l'apaisement. T'es complètement apaisé. Hein? Tu peux me payer plus tard si tu veux. Hein? T'es apaisé. T'es tranquillisé. Parce que tu sais que ça va être donné avec largesse. Tu sais qu'on va te donner plus que ce que tu mérites. Eh ben, quand tu fais sadaqa, c'est Allah qui te donne. C'est Allah qui te donne ton salaire. C'est Allah qui te multiplie les gains. Comme dans le hadith sur le jeûne. فَإِنَّهُ لِي. Le jeûne, il est pour moi. Allah dit, le jeûne est pour moi. وَأَنَا أَجْزِئُ بِهِ. Et c'est moi qui vais le rétribuer. Ça prouve que la récompense, elle est grandiose. La récompense, elle est phénoménale. بَارَكَ fikum. Wallahu يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَى. Certains savants ont dit que celui qui donne, Allah Azza wa Jal lui donne 700. Il donne un, Allah lui donne 700.
Et la parole, Wallahu yudha'ifu liman yasha, et Allah multiplie à qui il veut, c'est-à-dire au-dessus de 700 fois, à qui il veut. Au-dessus de 700 fois, Allah Azza wa Jal donne à qui il a choisi, à qui il a voulu. Au-dessus de 700 fois. Ça ne s'arrête pas à 700 fois. Mais à certains, à qui Allah Azza wa Jal a voulu, il leur donnera encore plus en fonction de leur sincérité, en fonction de leur véracité, en fonction de la situation, en fonction de leur suivi et leur accrochement à la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. En entendant ces récompenses, il se peut qu'un croyant, bien qu'il soit croyant, se dise, mais c'est beaucoup. Hein? N'est-ce pas? Il se peut qu'il se dise que c'est beaucoup. Peut-être que c'est une image pour nous dire un grand nombre, mais c'est pas vraiment 700 fois. Hein? Ça peut entrer dans la tête de certains. Allah Azza wa Jal nous dit, Wallahu wasi'a. Allah, il est vaste. Allah Azza wa Jal donne avec largesse. Le don d'Allah, il est vaste. La donation d'Allah, elle est incommensurable. Elle est inestimable. Elle est gigantesque. Elle est phénoménale. Allah Azza wa Jal ne trouve rien de trop grand pour te le donner. Allahu Akbar. Rien n'est trop grand chez Allah pour qu'il te l'accorde. Rien n'est trop lourd pour Allah pour qu'il te le fasse parvenir. Wallahu wasi'a. Alim, il est savant. Bien qu'Allah soit le généreux, le grand donateur, ça ne veut pas dire que sa donation est indépendante de sa sagesse. Il est aussi Alim, il est aussi savant de qui mérite ce don-là. Il est aussi savant du lieu où c'est sage de le mettre. Certains sont riches et généreux, mais ils n'ont pas la sagesse de savoir ce qu'il est bon de faire, à qui, comment, quand. Allah Azza wa Jal, en plus d'être wasi', il est alim. D'où la sagesse de la juxtaposition de ces noms-là, de ce nom à celui-là. Et ça fait partie des sciences les plus grandioses, comme a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Alors médite cela. La juxtaposition de ces deux noms d'Allah Azza wa Jal, wasi' et alim. Alors toi, le croyant, ne vois jamais un don d'Allah, une grâce d'Allah, un bienfait d'Allah, une subissance d'Allah, trop grande, trop lourde, trop multiple, trop conséquente, hein, pour qu'il te l'accorde. Allah, c'est Allahu wasi'un alim. Naam. Quand tu connais Allah, tu ne vois pas loin de toi cette donation. Tu ne vois pas loin de toi cette donation. Mais attention, elle n'est pas pour tout le monde. Allah Azza wa Jal est alim. Allah Azza wa Jal sait qui mérite cette multiplication de biens. Barakallahu fikum. Donc cette parabole, c'est vraiment une comparaison, une image somptueuse, une image splendide et des plus éloquentes. Il y a al-munfiq, le donateur. Il y a al-nafaqa, la donation. Il y a al-badir, il y a celui qui plante la graine. Et il y a le badr, il y a la graine. Il y a quatre points, deux choses comparées à deux autres. Mais subhanallah, Allah n'a mentionné qu'une des deux côtés. Allah n'a mentionné qu'une chose des deux côtés. Quant à, au premier côté, on a mentionné le munfiq, le donateur. On n'a pas mentionné la donation. Pourquoi? Parce que c'est le but de mentionner son état. Hein? Et on n'a pas cité la donation parce qu'elle est comprise dans l'exemple. Dans la deuxième partie, on a mentionné ce à quoi on a fait ressembler, on a mentionné que la graine. On a mentionné que la graine parce que c'est ça qui va se développer. C'est ça qui va se multiplier. C'est ça l'objet de la convoitise. Et on n'a pas mentionné celui qui plante la graine. Parce que le sujet ici n'est pas celui-là. Ainsi, il y a une éloquence. Il y a une éloquence sans être long. Il y a une parabole qui est courte, mais qui est des plus éloquentes
et qui comprend en même temps la perfection de l'exposé. Et c'est ça une parabole, ikhwat al-iman. Une comparaison, l'objet de la comparaison, le comparé à la chose comparée, na'am, et le tout avec une grande éloquence, de manière résumée, mais avec, en même temps avec une clarté. Mais en même temps avec une clarté. Il y a beaucoup de leçons à tirer de cette parabole. On peut mentionner ici la générosité d'Allah Azza wa Jal, ses grandes donations. La générosité d'Allah Azza wa Jal, ses grandes donations. Donc, qu'il est le riche, tabaraka wa ta'ala. Aussi, on voit qu'Allah Azza wa Jal, c'est le sage. Parce que bien qu'il soit riche, il met où il convient de le faire. Naam. On voit ici que le riche doit aller vers la science, les gens de science, pour obtenir la sagesse. Pourquoi? Pourquoi avoir choisi dans cette parabole pour les dons la terre? Méditez ça. Pourquoi la terre? Il y a plein d'objets de comparaison possibles. Mais si on a choisi la terre, pourquoi? Parce que l'exemple de l'argent halal, qui est dépensé sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il faut savoir où est-ce qu'on va la mettre. Tout comme le cultivateur, lorsqu'il choisit la plantation, il va pas mettre sur n'importe quelle terre. Et même la bonne terre, d'abord, il va retourner la terre, il va labourer, ainsi de suite, il va irriguer. Eh ben, en fonction de la terre choisie, en fonction de la graine que tu vas mettre, si la terre est bonne, si la graine est bonne, si la terre est bonne, hein, eh ben, t'obtiendras une grande baraka. Donc, la récompense, le secret ici, c'est que selon les causes que tu vas faire et l'intelligence que tu vas y mettre avec la sincérité, eh ben, la récompense, elle sera différente. Tout comme les terres des cultivateurs sont différentes et ce qu'ils obtiennent comme rendement est différent. Prenez ce cas-là qu'a cité Ibn al-Qayyim. Une bonne terre. Hein? Et la terre est à la terre du voisin. Et pourtant, l'eau, c'est la même. Comme on verra dans une parabole, prochainement. L'eau, c'est la même. Mais toi, t'as une terre et le voisin a une terre. Mais ta terre, elle est pure, elle est bonne. Naam? Qu'est-ce que tu fais? Régulièrement, tu l'arroses selon la nécessité. Troisième chose, régulièrement, tu viens et t'enlèves les mauvaises herbes. Qu'est-ce qu'on a ici qui s'est réuni? La bonne graine, dans la bonne terre, la bonne mesure de l'eau, et en plus, tu enlèves les mauvaises herbes. Tout ce qui peut nuire à la plantation, tu t'en éloignes. Quel sera le résultat? Énormément de bénéfices. Énormément de rendements. Eh bien, c'est ainsi qu'on doit être dans notre religion. Tu apprends, tu mets en pratique, tu fais les bonnes œuvres, tu cherches où tu as le plus de hasanat, tu purifies ton cœur, tu purifies tes membres, tu t'éloignes du haram, tu t'éloignes des péchés, et t'espères la récompense, chez Allah. Wallahu wasi'un alim. Voici pour cette parabole. On va s'arrêter sur cela, et demain, incha'Allah ta'ala, c'est le Jumu'ah. On verra inshallah ta'ala pour passer à la sixième parabole, qui est une parabole sur l'annulation des bonnes œuvres de celui qui est dans l'ostentation. Naam. On va voir une parabole où on nous met en garde contre le fait de vanter ses donations auprès de celui à qui on a donné. Ah, je t'ai fait ça, je t'ai donné ça, je t'ai aidé tel jour, et moi je t'ai fait, et moi je t'ai fait. Hein? Et faire du mal à ceux à qui on a donné. Et on va voir une comparaison entre, il y en a que celui qui fait ça est semblable à celui qui donne fi sabilillah, mais pour recevoir les éloges des gens, par ostentation. Et c'est quoi leur image? Et c'est la parabole qu'on étudiera. Inch'Allah ta'ala, wa sallillahumma wa barik على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا يا رب العالمين، يا سميع يا عليم. اللهم يا واسع الفضل، يا واسع العطاء، يا عليم. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك عليه كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف زوجاتنا، اللهم اشف أولادنا، اللهم اشف أمهاتنا وآباءنا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.